Il est 23h.
L'heure du crime sur RCI. Du lundi au jeudi, 23h minuit. Jean-Alphonse Richard de RTL vous plonge dans les arcanes de la police et de la justice.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales.
Entouré de spécialistes, archives sonores, protagonistes et grands témoins à l'appui, il rouvre les enquêtes des plus grandes affaires judiciaires. L'heure du crime sur RCI, du lundi au jeudi, 23h minuit.
L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Évidemment, je repense à cette nuit et je me dis, et si, il y en a beaucoup des si, mais je me force à repenser à la Sana que j'aimais. Quand on s'est dit au revoir dans la boîte de nuit, elle souriait, elle m'a serré fort dans ses bras. Juste avant de monter dans ce taxi, elle était heureuse.
Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans l'heure du crime.
Elle s'appelait Susanna Zetterberg, une Suédoise de 19 ans venue faire ses études à Paris. Et sa mort ressemble au pire des cauchemars, emportée par un faux taxi qui va rouler dans la nuit de la capitale pour s'arrêter dans une forêt d'où elle ne reviendra plus. 14 ans après, le souvenir de Susanna hante toujours sa famille, tout comme celui de la silhouette de l'homme qui lui a ôté la vie, le dénommé Bruno Chollet. L'enquête va rapidement se mettre dans les pas de cet individu au visage de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui cachait un prédateur sexuel, un violeur récidiviste, un chasseur à l'affût des femmes seules. Chollet, malgré les preuves, les indices, a toujours nié avoir tué la jeune Suédoise, laissant bien des interrogations en suspens. Quelles furent les dernières heures de son ultime victime? Que lui a-t-elle dit? Pourquoi aucune pitié n'a animé son bourreau? Question posée aujourd'hui à nos invités.
L'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Susanna Zetterberg. Au printemps 2008, cette jeune Suédoise disparaît brutalement après une soirée de fête en discothèque. Plus aucune nouvelle, elle est injoignable, on sait qu'elle a pris un taxi. Mais qui donc pouvait être au volant? Samedi 19 avril 2008 au matin, une femme se présente au commissariat du 18e arrondissement de Paris pour y signaler une disparition. Celle de Susanna Zetterberg, 19 ans, une étudiante suédoise à qui elle loue un studio au numéro 14 de la rue de Trétaigne. Si la logeuse est si inquiète, c'est que Susanna devait travailler ce matin dans un coffee shop dans un grand magasin de Paris. Elle ne s'y est pas présentée. Des copines suédoises qu'elle hébergeait pour quelques jours ne l'ont pas retrouvée. Au petit matin, quand elles sont rentrées à l'appartement. Elles avaient pourtant passé une bonne partie de la soirée ensemble à la Scala, une discothèque de la rue de Rivoli, au cœur de la capitale. Susanna avait quitté la boîte de nuit avant les autres, vers 5 heures du matin. Sa copine Elena l'a appelée. Elle lui a dit qu'elle prenait un taxi pour rentrer. Elle était ni inquiète, ni troublée, même si elle a ajouté que le taxi en question était, selon elle, bizarre. La police prend tout de suite au sérieux la disparition inexpliquée de Susanna Zetterberg, jeune femme mince, cheveux longs, blonds, portant un haut noir, une écharpe fuchsia, des chaussures à talons hauts et quelques bijoux discrets. Elle a peut-être été victime d'un vol qui a mal tourné car sa carte bancaire a été utilisée à 6h03 dans l'Oise, dans une agence bancaire à Senlis. Samedi, 12h15, environ 7 heures après la disparition, une promeneuse choquée signale aux gendarmes la présence d'un cadavre en forêt de Chantilly, en bordure d'un chemin forestier non loin du carrefour du Mail, entre Senlis et Chantilly. Le corps repose sur le ventre en partie carbonisé, les jambes légèrement repliées, les mains attachées dans le dos avec des menottes que l'on peut acheter dans des sex shops. Trois étuis vides de carabines 22 longs rifles sont abandonnés. Le légiste relève que la victime présente un gros hématome sur le front, mais ce n'est pas cette blessure qui a été fatale. Elle a reçu un coup dans la région du cœur avec un instrument qui pourrait être un pic à glace. Puis elle a été touchée par 4 balles, 3 derrière l'oreille droite à bout touchant, une 4e à l'arrière du crâne. À cause de la crémation, impossible de savoir si la malheureuse a subi des violences sexuelles. Le rapprochement est aussitôt fait avec l'étudiante suédoise disparue à Paris. Il s'agit bien de Susanna Zetterberg. Sa mère et sa grand-mère, venues de Suède, vont formellement l'identifier. La brigade criminelle est saisie du dossier.
quartier. Elle recherche aussitôt le taxi dans lequel est montée la victime. Dans les jours qui suivent, un automobiliste qui traversait la forêt de Chantilly le samedi, jour du crime, certifie avoir vu au carrefour du Mail un monospace Citroën blanc. Les vitres étaient fumées, elles étaient opaques, il n'a remarqué personne. Qui a enlevé et tué Susanna Zetterberg? Au fil des heures, se dessine le portrait d'une étudiante équilibrée, inscrite à la Sorbonne, parlant français, amoureuse de Paris, entourée d'affection par sa famille suédoise. Susanna, Sana pour ses proches, aimait faire la fête comme toutes les filles de son âge. La nuit de sa disparition, elle n'était pas ivre, mais avait bu plusieurs verres, de quoi peut-être la rendre vulnérable face à son agresseur. La crime fait le tour des sociétés de taxis parisiens. Elle se tourne aussi vers leurs collègues de la police des taxis, surnommés les Boers ou les Bourgs. Ils fournissent une liste de 45 suspects de possibles taxis clandestins. Un homme attire très vite l'attention. Bruno Chollet, 51 ans. 18 jours avant le meurtre de l'étudiante, il a été interpellé à Roissy pour le chargement illicite d'une voyageuse. Il a surtout de lourds antécédents judiciaires, pas moins de 2 viols en 83, dont celui d'une petite fille de 12 ans pour lesquels il avait écopé de 18 ans de prison. L'une de ses agressions s'était produite à l'époque en forêt de Chantilly. Une témoin, Émilie, dit avoir été embarquée par un taxi suspect une semaine avant le crime. Le chauffeur lui avait fait des propositions salaces. Il ne voulait pas s'arrêter, elle était descendue en marche. Il avait un monospace blanc. Tout mène donc à ce Bruno Chollet. Et la brigade criminelle va suivre évidemment la piste Chollet, piste prioritaire, car l'individu semble avoir le profil d'un suspect de première importance, un suspect idéal dans le meurtre de Susanna Zetterberg. On va voir dans la suite de l'heure du crime comment les policiers vont le retrouver, ce Bruno Chollet, et surtout ce qu'il va raconter, ou pas d'ailleurs, sur cette affaire. On est là donc en ce printemps 2008, et tout de suite on est glacé par le scénario qui vient de se dérouler. Bonjour Éric Trunel.
Bonjour monsieur.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien commandant à la brigade criminelle, au 30, à l'époque c'est le 36 quai des Orfèvres, évidemment, c'est la brigade, j'ai envie de dire, la plus prestigieuse du quai des Orfèvres. Et dans cette affaire, vous avez été directeur d'enquête dans cette affaire Zetterberg. La question que je me pose, c'est vous êtes policier, vous avez l'habitude de traiter des crimes, même les plus atroces. Pourquoi cette affaire, tout de suite, vous jugez qu'elle est importante? Tout de suite, on met les gros moyens sur cette affaire, alors que, c'est, après tout, c'est une disparition d'une jeune femme.
Oui, c'est une disparition. Nous avons été saisis suite à la déposition de disparition inquiétante de personnes majeures faite par une relation de la famille de la victime. Et la saisine, à proprement parler, de la découverte du corps de Susanna Zetterberg a entraîné l'enquête première diligentée par la gendarmerie qui est territorialement compétente.
Mais vous sentez tout de suite que ça va pas, il y a quelque chose de...
Alors les éléments, effectivement, les déclarations même du témoin qui fait état de cette disparition inquiétante laissent supposer qu'effectivement il y a certainement eu un enlèvement vu les circonstances, notamment un message que rapporte une des amies suédoises de la victime qui se trouvait dans la même boîte de nuit qu'elle, à la Scala rue de Rivoli, qui fait état peu de temps après la disparition de Susanna Zetterberg, d'un message qu'il lui a laissé en disant que le taxi était bizarre.
Il est bizarre.
Le taxi dans lequel je suis est bizarre.
Oui, oui.
Donc c'est un élément effectivement troublant et qui laisse supposer qu'elle a pu être victime d'un enlèvement.
Et encore un mot, Éric Trunel. Il y a cette scène de crime. Hein. On va découvrir très vite le corps de la malheureuse. On est là dans quelques heures après l'enlèvement. La scène de crime, elle est particulièrement violente hein, parce qu'elle a été martyrisée, cette pauvre fille, j'ai envie de dire.
Oui, alors elle est violente. Elle se situe donc dans un sous-bois en bordure d'une départementale en forêt de Chantilly. Le corps avait été retrouvé nu, face contre terre, sur le ventre, avec les poignets attachés dans le dos. Et trois étuis de 22 longs rifles avaient été retrouvés, donc deux à côté du corps et un au-dessous du corps. Et puis des blessures apparentes étaient tout de suite découvertes, notamment un orifice. On s'apercevra après qu'il y a eu quatre tirs avec trois orifices, comme vous l'avez dit, derrière l'oreille, et un orifice à l'arrière du crâne, sachant que il y a aussi un orifice au niveau de la poitrine qui, au début, pouvait avoir été causé par une arme blanche, oui, mais qui, lors de la seconde autopsie, apparaîtrait comme également
un tir d'arme à feu,
une orifice d'arme à feu.
Ah d'accord, ok. Donc effectivement, voilà. En tout cas, bon, il y a cette scène qui est d'une grande sauvagerie. Il n'y a pas d'empreinte. Hein.
On ne trouve pas d'empreinte. Parce qu'on est dans un environnement dégradé. Il a plu dans la nuit. Le terrain est humide. Il n'y a aucune empreinte. Pour l'heure, les menottes, évidemment, ont été saisies. Le corps est brûlé, partiellement, avec notamment à hauteur des épaules, de la poitrine, mais également au niveau du bassin. Donc, aucune trace de violence sexuelle ne peut être, évidemment, constatée. Et puis, la victime ne possède pas ni de sac, ni de portefeuille auprès d'elle. Mmh. Et elle a été également agressée, certainement physiquement, puisqu'il y a un hématome présent au niveau du front qui laisse supposer qu'elle a pu être frappée par l'auteur des faits, le ou les auteurs des faits.
Et effectivement, le corps est trop dégradé, et puis il y a eu cette crémation. On ne sait pas s'il y a eu une agression sexuelle ou pas, même si la scène le laisse penser. On peut le dire comme ça. Bonjour, maître Laure Moureux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes, vous, l'avocate de la famille de Susanna Zetterberg. Là aussi, une question très simple. Mais qui est tout simplement la victime, Susanna Zetterberg? C'était une jeune fille tranquille qui adorait Paris et qui adorait la France. Elle y faisait ses études.
Je crois que vous avez extrêmement bien résumé la situation. C'était effectivement une jeune Suédoise de 19 ans qui était venue passer une année d'études en France, qui travaillait partiellement pour payer cette année d'études et qui adorait Paris et notamment le 18e arrondissement où elle vivait et qui travaillait et qui s'amusait également comme toutes les jeunes filles de cet âge-là.
Maître Moureux, si cette affaire elle frappe tout de suite les imaginations, c'est que c'est un cauchemar qu'on peut tous connaître, finalement. Un faux taxi, ou en tout cas un taxi bizarre dans la nuit qui emporte une jeune femme, ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça, tout de suite, que, effectivement, l'opinion retient cette affaire.
Ouais, parfaitement. Et d'ailleurs, ça a largement retenu l'attention de tous à l'époque des faits. Alors, ça date un peu maintenant, mais à l'époque, il y avait eu beaucoup de retentissement donné à cette affaire en raison de j'ai envie de dire de la banalité de ce moyen de locomotion et de la possibilité pour tous de rencontrer finalement ce genre de personnages.
C'est tout à fait.
C'est ce qui inquiète.
Et c'est ce qui inquiète et c'est qui à l'époque, effectivement, je me souviens très bien de cette affaire. Il y a un côté très glaçant, très stupéfiant lorsqu'on découvre le modus operandi et puis le scénario de cette affaire.
Vous écoutez l'heure du crime sur RCI. Jean-Alphonse Richard.
J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la lumière, j'ai trouvé la force de mon rayon de soleil. Avec toi j'irai jusqu'au bout, pour toi je donnerai tout, tout, tout. En toi j'ai trouvé la force, j'ai trouvé la lumière, j'ai trouvé l'amour de mon rayon de soleil. J'irai jusqu'au bout, pour toi je donnerai tout, tout, tout. Oh, moi j'ai trouvé la force de garder cette lumière. Tu m'égares l'amour, me fais vivre tes merveilles. Avec toi j'irai jusqu'au bout, toi qui m'as donné tout, tout, tout. C'est l'amour, tout, tout, c'est l'amour.
RCI, 23h minuit, l'heure du crime. RTL, Jean-Alphonse Richard.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Susanna Zetterberg. Au printemps 2008, cette jeune Suédoise disparaît brutalement après une soirée de fête en discothèque. Plus aucune nouvelle, elle est injoignable, on sait qu'elle a pris un taxi. Mais qui donc pouvait être au volant ? Bonjour maître Aurélie Cerceau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate, vous, de Bruno Chollet. Alors Bruno Chollet, il est rapidement interpellé, on va dire les choses comme ça, dans cette affaire. Il est interpellé parce qu'il y a eu un signalement auprès de la police des taxis qui estime qu'il peut faire partie des suspects. Puis on va s'apercevoir qu'il a un drôle de pédigré, votre client Bruno Chollet. C'est un récidiviste criminel sexuel, c'est ça ?
C'est un multirécidiviste. En fait, les Bauer s'intéressent à Bruno Chollet assez rapidement parce que il a un casier judiciaire et c'est un faux taxi. Et il a une affaire de faux taxi. Effectivement, il est connu des services de police, il a un casier judiciaire mais incroyable, malheureusement. Et il est connu pour trois viols, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur deux femmes et une petite fille.
Et
donc très vite, on s'interroge sur son rôle, et il a en plus un véhicule qui correspond à certaines descriptions de certains
témoins.
Ressemble à ce fameux monospace blanc qui est décrit notamment par un témoin très important de ce dossier.
La police va se rapprocher peu à peu de ce suspect qui apparaît comme un solitaire et elle va finir par l'interpeller. 24 avril 2008, 5 jours après la mort de Susanna Zetterberg, 40 enquêteurs sont mobilisés. La brigade de recherche et d'intervention, la BRI, est spécialement missionnée pour suivre les moindres faits et gestes du dénommé Bruno Chollet. Il n'a pas été simple de le retrouver, mais désormais, il est sous surveillance. La police sait que la nuit du crime, son téléphone était éteint. Il n'a été rallumé que quelques heures plus tard et a borné à l'adresse d'un hôtel de l'avenue de Clichy à Paris. Il a bien pris une chambre dans cet établissement. 5 avril, en début d'après-midi, la BRI suit discrètement le monospace blanc conduit par Bruno Chollet. Il achète une pelle dans un magasin de bricolage, puis se rend en début d'après-midi au bois de Boulogne, où il va passer du temps à gratter le sol dans un bosquet. L'intéressé restera totalement évasif sur cette halte. 15h34, Bruno Chollet est interpellé au volant de son véhicule. Il ne montre aucune résistance. Il est placé en garde à vue. Chollet est interrogé en premier lieu sur les housses de siège neuves qui équipent le monospace. Il dit les avoir changées pour ne pas s'attirer les foudres de celui qui lui loue le véhicule. Elles avaient des trous de cigarettes. Un gant en cuir noir est retrouvé dans un vide poche de portière. Ce gant n'est pas à moi. Il était déjà là lorsque j'ai récupéré la voiture au mois de mars, répond Bruno Chollet. Un paquet emballé dans un sac poubelle est ouvert. Un sachet plastique maculé de terre est marqué d'une inscription manuscrite. Susanna, avec un seul N suivi du chiffre 377. À l'intérieur, trois paires de menottes qui ressemblent à celles qui ont servi à entraver la victime. Aucune explication sur ce point. Dans le même paquet, une mallette est ouverte. Elle renferme un pistolet Walther P22, calibre 22 long rifle muni d'un silencieux. L'arme est chargée de 9 cartouches. Le suspect s'étonne de la présence de cette arme. Il prétend qu'elle n'était pas là lors de son interpellation. Il suggère que les policiers l'ont déposée pour l'accuser. Vous ne retrouverez ni mes empreintes ni mon ADN sur cette arme, car elle ne m'appartient pas, affirme Chollet. Ce dernier indique qu'il travaillait bien comme taxi pour une société, mais effectue une partie des courses à titre personnel. On lui présente la photo de Susanna Zetterberg. Il dit n'avoir aucun souvenir de l'avoir prise dans son taxi. 27 avril, Bruno Chollet est mis en examen pour enlèvement, séquestration, meurtre. Il nie les faits. Ses antécédents, le mode opératoire de ses précédents viols, le fait qu'il ressemble à l'homme filmé en train d'essayer de retirer de l'argent avec la carte de la victime, tout cela nous a mis sur sa piste, indique alors le numéro 2 de la PJ de Paris, Jean-Jacques Herlem. Les expertises indiquent que le pistolet saisi est bien l'arme du crime, la balistique est formelle. En outre, il a été trouvé une trace ADN de Susanna Zetterberg à l'extrémité du silencieux qui a touché son cou. Malgré ces éléments accablants, Bruno Chollet continue à démentir toute implication dans le crime. Face aux deux juges d'instruction, il raconte qu'il a passé la nuit du 18 au 19 avril à la recherche de clients. S'il avait coupé son téléphone, précise-t-il, c'était parce qu'il s'était disputé avec sa compagne sur sa curieuse équipée au bois de Boulogne. Il est muet. Il répète qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire. Il n'y a rien de vrai, précise-t-il en évoquant les accusations. Puis met fin à un interrogatoire par ces mots. Je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous préciser. Et effectivement, Bruno Chollet va s'abstenir de toute déclaration sur la mort de Susanna Zetterberg, sauf à répéter encore et encore qu'il n'a rien à voir avec le crime de la forêt de Chantilly. On verra dans les chapitres suivants de l'heure du crime si le suspect va se montrer plus bavard. Maître Aurélie Cerceau, vous êtes l'avocate de Bruno Chollet dans ce dossier. On vous retrouve dans cette heure du crime. On a envie de dire qu'il y a beaucoup d'éléments quand même contre lui. Il y a ce pistolet qu'on retrouve dans cette mallette. Il y a la trace de ADN de Susanna Zetterberg sur le silencieux de ce pistolet, etc., etc. Ça fait beaucoup et pourtant, ben, il reste sur sa droite ligne, Chollet.
Oui, Bruno Chollet va toujours nier les faits, malgré ce que vous dites, les traces ADN, l'arme qu'on va retrouver dans sa voiture, le sac mentionnant Susanna, oui, avec une photo d'orthographe, très étrange aussi. Il va toujours nier les faits et Bruno Chollet connaît parfaitement le dossier, côte par côte, quasiment. Et il va toujours trouver des zones d'ombre dans le dossier, comme il peut y en avoir dans beaucoup de dossiers.
Bien sûr.
Par exemple, sur cette mallette qui contient cette arme, sur laquelle on voit une trace, on retrouve une trace ADN de Susanna Zetterberg, le premier procès verbal qui fait le tour du véhicule et qui énumère tout ce qu'on retrouve dans le véhicule ne fait pas état de cette mallette ni de ce sac sur lequel est inscrit Susanna Zetterberg. Et donc pendant toute l'instruction, puis ensuite devant les cours d'assises, il va sans arrêt dire, mais cette mallette n'y était pas. Ce qui est une réalité lorsqu'on regarde le premier PV, puis ensuite le deuxième PV 24 heures après. Et donc, pour chacun des éléments du dossier, il va à chaque fois tirer parti de certaines pièces du dossier pour dire, regardez, la réalité, elle est là.
Mais
elle est dans ses failles.
Est-ce que c'est pas une recherche un peu désespérée, finalement?
Je ne pense pas que ce soit une recherche désespérée. Je pense que cet homme-là, qui n'a jamais eu de vie, joue sa vie avec cette procédure. Il sait que s'il réussit à démontrer qu'il n'y est pour rien, il va avoir une vie. Et il a plein d'espoir pour cette vie. Si en revanche il est condamné, eh bien il sait qu'il ne sortira jamais vivant de prison. Ouais. Et donc il joue sa vie.
Il joue sa vie et donc effectivement il cherche tous les moyens pour effectivement exister, en tout cas se défendre.
Se défendre.
Se défendre. Éric Trunel, à l'époque vous êtes le directeur d'enquête, ancien commandant de la brigade criminelle. Très vite, lors de cette perquisition du véhicule, pour vous il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup d'éléments qui surgissent dans cette voiture, dans ce monospace.
L'élément principal étant évidemment l'arme. L'arme qui a été retrouvée dans cette mallette et qui, lors des expertises génétiques, montreront que l'ADN de Bruno Chollet, en mélange avec celui de Susanna, se retrouve sur les différentes parties de l'arme, que ce soit le silencieux, mais également la culasse, les chargeurs aussi, et même les munitions. Ce qui laisse entendre que Bruno Chollet a dû nettoyer cette arme postérieurement à la commission des faits. Je voulais juste préciser en ce qui concerne les procès-verbaux, le premier procès-verbal certainement était un procès-verbal de constatation extérieure et la mallette était dissimulée, donc n'était pas visible aux yeux des policiers. Mmh. Et c'est lors de la perquisition qu'elle est découverte, que évidemment Bruno Chollet avait été suivi par les hommes de la BRI, de la brigade de recherche d'intervention, qui avaient constaté qu'il déterrait un objet qui ressemblait en tout point, bien évidemment, au sac et à la mallette qui était contenue à l'intérieur de ce sac et qui d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, était maculée de terre. Et
effectivement, donc vous avez retrouvé ces éléments après. Encore un petit mot, Éric Trunel, quel est le personnage que vous avez en face de vous, en garde à vue?
On a un personnage, un bloc, un véritable bloc, qui est dans le déni le plus total, alors que lorsqu'on l'interpelle, on a quand même des éléments matériels à charge, qu'on ne va pas évidemment lui révéler tout de suite, mais qui laissent supposer incontestablement que Bruno Chollet est impliqué dans cette affaire de meurtre.
Maître Laure Moureux, vous êtes vous l'avocate de la famille de Susanna Zetterberg. On est là au tout début finalement de cette affaire, mais qui va très vite parce que l'enquête progresse à pas de géant. Quelle est la latitude de la famille? Est-ce qu'elle est soulagée par le fait qu'on ait trouvé finalement un suspect qui paraît être le bon?
L'enquête va effectivement aller extrêmement vite. Le travail des enquêteurs va être incroyablement efficace. C'est très tôt en fait pour la famille. Au moment de l'interpellation, si vous voulez, entre le crime et l'interpellation, il se passe quelques jours. Donc le soulagement, sans doute, mais je pense qu'ils n'en sont même pas encore là au plan affectif et intellectuel. Ils sont même pas en mesure de comprendre ce qui leur arrive. Mais effectivement, le fait d'avoir connaissance d'une interpellation d'une personne dont on va très vite s'apercevoir qu'il est l'auteur, sans contestation possible, et en dépit de ses dénégations, oui, bien sûr, apporte une forme de soulagement, mais c'est, j'ai envie de dire, presque dérisoire au regard de ce qu'ils sont en train de vivre.
Les dénégations de Cholet ne vont pas convaincre les juges d'instruction. Le suspect numéro 1 va comparaître aux assises.
L'important, s'il est condamné, c'est prouver que c'est lui. Je ne peux jamais, jamais, jamais le pardonner. J'ai vraiment besoin de savoir. Pour moi, il n'est pas humain. C'est comme le mal, c'est pas comme une personne.
Mardi 4 septembre 2012, Bruno Cholet, 55 ans, silhouette rondouillarde, petites lunettes, cheveux bruns coiffés à la va-vite, visage fermé, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Il ne va pas y rester longtemps, il est aussitôt pris de nausées, fait un malaise, une nuit d'hospitalisation, un coup de chaud, dit-il. D'emblée, à la reprise du procès, il affirme qu'il n'a tué personne. Il raconte son passé de délinquant. « Ma scolarisation s'est faite en prison », dit-il. Sa vieille mère, malade, a écrit à la présidente de la cour. « Bruno se laisse entraîner facilement. Ne soyez pas trop dur avec lui. » Au fil des audiences, l'accusé n'en démord pas. Il accuse les policiers d'avoir monté un dossier de toutes pièces, car il a refusé d'être un indique. Les enquêteurs avance des preuves accablantes, comme les menottes retrouvées dans le monospace, identiques à celles entravant les poignets de la victime. C'est pas mes menottes, j'ai pas de menottes. Ou encore la vidéosurveillance qui montre un homme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau devant l'agence bancaire où la carte de la victime a été utilisée. Ce n'est pas moi, affirme-t-il. Trois jeunes femmes qui sont montées dans son taxi disent avoir eu la peur de leur vie. Elena, 30 ans, s'était retrouvée coincée dans la voiture de Cholet. « Je me suis dit que j'allais finir dans une cave », raconte-t-elle. Elle décrit les gants du chauffeur et un pic à glace sur le siège. « J'ai laissé une boule de cheveux dans le véhicule. Je me suis dit que même si j'étais morte, ça servirait peut-être à le rattraper. » Les parents, le frère de Susanna, témoignent. Ils évoquent une fille joyeuse, toujours en train de faire quelque chose, un tourbillon qui a disparu. Après ces témoignages, l'accusé indique « Je ne me sens pas concerné ». 14 septembre, Bruno Cholet est condamné à la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans. « Je veux que vous sachiez que vous avez condamné un innocent », dit-il.
Vous écoutez l'heure du crime sur RCI. Jean-Alphonse Richard.
Yo. Ouais, 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 ouais. Oh yeah, la nuit est venue, même les étoiles dans le ciel se sont endormies. Oh yeah, elle est seule dans la rue à se demander où aller, à se demander ce qu'il adviendra d'elle, tout seul en Maria. Isaïe les bondiers. Ils a crié maman, oh maman moi, oh maman, pas mes lendemains, oh papa.
C'est n'a pas 20 ans,
non.
Toi déception,
elle n'a pas 20 ans,
non.
C'est n'a pas 20 ans,
franchi
elle n'a pas 20 ans,
non. Toi,
I pray that God. We'll open the door for her. Oh yeah, yeah, yeah. Apporte-lui la lumière.
Apporte-lui la lumière.
Apporte-lui la lumière.
Apporte-lui la lumière.
By force là.
Oh, 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 oh.
Apporte-lui la lumière. my first love. Hey, sometimes you smile, sometimes you cry, sometimes you pray, sometimes you see the tears. L'ennui passé, jour a ouvert lumière. On laisse cesser lumière. On laisse cesser.
As long as you stay handed, the light is always there. As long as you keep on praying, live here. A left stay.
RCI, 23h minuit, l'heure du crime. RTL, Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Susanna Zetterberg. Au printemps 2008, cette jeune Suédoise disparaît brutalement après une soirée de fête en discothèque. Plus aucune nouvelle, elle est injoignable, on sait qu'elle a pris un taxi. Mais qui donc pouvait être au volant ? 14 septembre, Bruno Chollet est condamné à la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans. « Je veux que vous sachiez que vous avez condamné un innocent », dit-il. Et voilà un homme qui crie donc son innocence et qui dit que finalement c'est un dossier fabriqué, monté contre lui. Maître Laure Moureux, vous êtes l'avocate de la famille de Susanna Zetterberg et vous êtes évidemment à ce procès. Comment vit la famille ce face à face avec celui qui est désigné comme le meurtrier de leur fille?
C'est très paradoxal parce que c'est effectivement l'auteur sans contestation possible, hein, et en dépit des dénégations qui sont les siennes de ce crime abject. C'est une confrontation qui est à la fois douloureuse et en même temps les propos que tient cet individu sont dérisoires puisque nous savons que c'est lui. Il a tout de même l'outrecuidance de les regarder dans les yeux, hein, et de leur dire qu'il n'est pas l'auteur de ce crime. Mais ils prennent le parti de laisser glisser sur eux ces paroles qu'ils ne veulent pas considérer. Mmh. Ils ne veulent pas considérer cet individu. Ils ne veulent pas que les paroles qui sont les siennes puissent, si vous voulez, les pénétrer. Oui. C'est ce qu'ils avaient expliqué à la cour.
Ils se protègent et on les comprend bien, évidemment, cette famille. Juste encore un mot, maître. Le témoignage de la famille de Susanna, ça ne le déverrouille pas, Bruno Chollet. Il reste de marbre, on a envie de dire comme ça.
Rien ne le déverrouille, hein. Rien ne le déverrouille, les charges accablantes et les preuves accablantes réunies par les enquêteurs à son encontre, ni l'émotion évidente, naturelle, manifeste et très digne
de la famille.
De la famille, de mes clients. Rien ne le fait vaciller.
Maître Aurélie Cerceau, vous aviez la tâche très difficile de défendre Bruno Chollet. Qu'est-ce que vous lui avez dit avant ce premier procès? Vous lui avez dit, Bruno, il faut parler maintenant, c'est fini tout ça?
Quand on est avocat d'accusé, on dit sans arrêt à nos clients de dire les choses lorsqu'ils ont des choses à dire. D'avoir de l'émotion, de laisser transparaître l'émotion lorsqu'elle est là. Mais Bruno Chollet, en tout cas en première instance, est incapable de laisser transparaître à l'audience ses émotions. En dehors de l'audience, il en pleure.
C'est pas le même personnage.
C'est le même personnage, mais il se laisse aller à l'émotion. Cette famille-là, cette mère-là, l'a marqué. l'a marqué, mais je n'ose même pas dire. C'est, il aurait rêvé d'avoir cette famille. Mmh. C'est terrible parce que ce sont des vies, la vie d'un homme abominable, mon client, qui a commis des faits abominables, et je parle aussi de ceux du passé. Et sa vie à lui est venue percuter la vie de gens qui sont d'une finesse, d'une élégance, d'une douceur, d'une tendresse et d'un amour incroyable. Et ne serait-ce que ça à l'audience, il l'a vécu et je l'ai vu dans ses émotions, je l'ai vu moi. Mmh. Et c'est parfois même à l'audience par une petite larme, imperceptible aux autres, mais que moi je voyais parce que j'étais à quelques centimètres de lui. Il a été ému, mais il n'a rien voulu laisser paraître.
Ouais, mais ce qu'il vous disait en privé, il aurait fallu qu'effectivement qu'il le dise devant cette cour et devant cette famille qui n'attendait sans doute que ça, qu'on lui présente une vérité, même si ça aurait été uniquement sa vérité. Assis sur ses certitudes, Bruno Chollet ne veut pas en rester là, il fait appel. 13 mai 2014, Bruno Chollet, cheveux poivre sel coupé ras, fait face au juge et juré de la cour d'assises d'appel de la Seine-et-Marne à Melun. Il est interrogé sur son attirance pour les femmes jeunes, blondes et habillées chic. Certaines de ses clientes l'ont accusé d'avoir un comportement inquiétant. Il dément avoir voulu verrouiller les portes de sa voiture ou avoir voulu leur faire peur. Avance un état de fatigue et certifie que le pic à glace qu'elles ont pu voir n'était qu'un stylo. S'il portait des gants, c'est qu'il avait un gros rhume. Quand je suis avec une femme qui physiquement m'intéresse et avec qui je peux avoir mes chances, oui, il m'arrive de rouler plus doucement pour voir s'il y a une ouverture, admet-il. Bruno Chollet s'en tient toujours à la thèse du coup monté par les policiers. Ils auraient fabriqué de fausses preuves. Explication grotesque, lance l'avocat général. Vous n'avez pas avancé d'un millimètre depuis le premier procès. Cet appel n'aura servi à rien, sinon à infliger à la famille de Susanna une nouvelle souffrance. Chollet s'adresse aux parents. Je suis désolé de cette épreuve qui vous tombe dessus, mais je vais sans doute vous décevoir. Je ne suis pas le meurtrier de votre fille. Verdict. Perpétuité, 22 ans de sûreté. Et donc, un verdict identique pour un procès qui est un petit peu différent, maître Aurélie Cerceau. C'est plus le même climat qui règne sur ce procès en appel. Vous êtes l'avocate de Bruno Chollet.
Oui, c'est plus du tout le même climat. Autant en première instance, il était virulent, il faisait des crises et refusait de comparaître. Là, pas du tout. Là, il écoute, il regarde. Il regarde notamment, par exemple, les photos de Susanna Zetterberg. Et on sent qu'il est très, très sensibilisé à plein de choses. Et on se rend compte qu'il pourrait peut-être avancer, il pourrait peut-être dire des choses qu'il n'a pas dit en première instance, mais en fait, il va en rester à ses déclarations de première instance malgré tout.
Voilà, mais ces choses, Maître Laure Moureux, vous défendez à ce procès la famille de Susanna Zetterberg, ces choses que la famille attend, il ne va pas les dire. Et la famille ne va pas d'ailleurs se révolter, elle ne va pas vouloir se révolter, elle va subir finalement ce silence de l'accusé.
Oui, effectivement, il ne va rien dire de plus en réalité en appel qu'en première instance, même si effectivement son comportement est un peu plus calme, comme l'a dit ma consoeur. Pour autant, il ne va pas avancer. Mais en réalité, mes clients n'attendent rien de cette personne. Ils ne veulent rien entendre de lui. Et plus, ils disaient finalement, ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de lui. Ça ne servirait à rien qu'il parle, parce qu'il pourrait dire ce qu'il veut sur les derniers instants de notre fille. Et nous ne saurions pas si c'est la réalité. Donc finalement, ça ne change rien pour nous, qu'il parle ou qu'il parle pas. Nous savons que c'est lui et nous n'avons pas besoin de plus.
Éric Trunel, vous avez dirigé cette enquête, vous êtes ancien commandant de la brigade criminelle, vous étiez présent témoin au premier procès, vous n'étiez pas à ce procès en appel, mais peu importe, on a le sentiment qu'il est identique à l'homme que vous avez eu en garde à vue. Vous parliez d'un bloc tout à l'heure, une espèce de roc, il n'y a pas de fissure, presque.
Non, lors du
procès. En tout cas, pas visible pour nous.
En tout cas, aucune fissure n'apparaît. Non seulement il a à aucun moment, puisque je suis resté après mon témoignage en assise dans la salle, et à aucun moment il n'a eu de compassion vis-à-vis de la victime, ni de compassion vis-à-vis de la famille. Il s'est muré dans un silence total et a toujours été arc-bouté sur le fait qu'il était victime d'un complot policier, qu'on avait fabriqué des preuves.
Vous avez dû vous expliquer d'ailleurs, vous les enquêteurs là-dessus.
Ah ben bien sûr, on s'est expliqué modestement, puisque en fait on n'avait pas véritablement à se défendre. Hein, les preuves rassemblées et toutes les investigations démontraient que Bruno Chollet était confondu à travers ces preuves. Donc on n'a pas eu à s'expliquer véritablement. Et d'ailleurs, cette théorie de complot pouvait paraître totalement invraisemblable.
Maître Aurélie Cerceau, avocate de Bruno Chollet, deux fois condamné à la perpétuité, 22 ans de sûreté. Comment est-ce qu'il encaisse le choc, Bruno Chollet? Parce que là, il montre rien, donc peut-être là, il va...
Après, en première instance, il ne montre rien. Il dit, de toute façon, je le savais, c'était une évidence. En appel, et c'est peut-être pour ça aussi que son attitude change, il se rend bien compte qu'il faut qu'il écoute davantage, il faut peut-être aussi qu'il réponde différemment, il faut que voilà les choses se passent différemment. Le président n'est pas le même, mais évidemment, il se dit, j'irai plus loin, je saisirai la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, enfin, il sort toutes les instances qui sont possibles, en disant, il faut que je me batte parce que je suis innocent. En fait, il a vraiment... ce mot innocence, elle est dans sa bouche. Après l'appel, encore et encore.
Mais encore une fois, c'est désespéré. On a l'impression que c'est même un peu lâche, parce que finalement, vous ne reconnaissez rien. Vous avez en face de vous une famille qui est accablée, qui est dans le malheur, et voilà, on continue à fermer un petit peu les écoutilles.
Un homme condamné à perpétuité avec la peine de sûreté maximum de 22 ans, il a besoin d'un espoir. Pour vivre, il faut avoir de l'espoir. Et lui, son espoir, c'est peut-être qu'un jour, quelqu'un pourra entendre qu'il dit qu'il est innocent et qu'il est innocent. Je pense que c'est ça, en fait, c'est cet espoir-là. Parce que c'est la seule chose qui lui reste. Il lui reste rien, il est tout seul. C'est un homme seul. Sa famille n'est pas là, il n'a pas d'amis, il n'a rien.
Bruno Chollet reste en prison pour l'éternité. Il va y mourir 7 ans après sa deuxième condamnation. Le meurtrier de Susanna Zetterberg, Bruno Chollet, s'est éteint le 25 juin 2021 à l'âge de 64 ans, derrière les murs de l'unité hospitalière sécurisée de Pierre-Bénite, près de Lyon. Il n'est jamais revenu sur ses affirmations selon lesquelles la totalité de son dossier d'accusation avait été fabriquée de toutes pièces. Chollet a ainsi laissé sans réponse la famille de Susanna, présente aux deux procès. Si je hais cette personne, je vais la faire entrer chez moi, je serai obligé de penser à elle tous les jours. Et ça, je ne le veux pas, avait averti le père de l'étudiante, Karl Zetterberg. Un des avocats de la famille, maître Jean-Paul Contant, avait indiqué, Bruno Chollet a tiré un rideau noir sur ce qui s'est passé. Les parents de Susanna Zetterberg ont créé une fondation en sa mémoire destinée à aider les enfants défavorisés. Elle voulait faire quelque chose dans le monde, c'est une façon de réaliser son rêve, disent-ils. Et on retrouve dans cette heure du crime maître Laure Moureux, avocate de la famille de Susanna Zetterberg. Est-ce que cette famille a pu enfin faire le deuil de cette histoire et être partie en paix après ces deux procès qui ont condamné le meurtrier de leur fille?
Je vais vous dire que non, on ne fait pas le deuil de cette histoire, on ne fait pas le deuil du massacre de sa fille de 19 ans. On ne repart pas en paix, en dépit de la condamnation maximale infligée à l'auteur. Jamais. On apprend à vivre avec cette blessure, avec ce vide, avec ce manque, et on fait face. Mmh. Et ils le font de manière extrêmement digne. Mais non, l'histoire n'est pas réglée. Elle est d'autant moins réglée qu'elle a été ravivée pour eux à l'occasion du décès de Monsieur Chollet, parce que contre toute attente, on pourrait se dire la famille de la victime se réjouit d'une telle nouvelle, mais en réalité, le décès de l'auteur, c'est aussi la fin de tout, paradoxalement.
Parce que cette famille avait encore espoir que peut-être il se confie un jour, qu'il dise quelque chose, qu'il avance un petit peu, même condamné deux fois à la perpétuité.
Non, la famille n'avait aucun espoir, n'a jamais d'ailleurs fondé aucun espoir et placé aucun espoir en cet individu. La famille, non, n'attendait plus rien de lui, n'a jamais attendu quoi que ce soit de lui. Mais c'est une réviviscence, forcément, lorsque l'on leur annonce le décès de l'auteur. Ça fait remonter, vous l'imaginez bien, un certain nombre de choses qui affleurent de toute façon quotidiennement dans leur vie.
Ouais, c'est toujours une blessure ouverte, hein, c'est ce que vous nous dites, maître Moureux. Hein.
Totalement ouverte.
Éric Trunel, vous avez dirigé cette enquête, ancien commandant de la brigade criminelle à Paris, au 36 quai des Orfèvres. Il y a un psy qui va dire, lors du procès, que Cholet a pris du plaisir à voir souffrir cette famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est Cholet est un sadique?
Je ne veux pas particulièrement aller à l'encontre des propos de ce psy. Simplement, je pense que Bruno Cholet c'est n'a pas particulièrement pris du plaisir au chagrin de la famille et n'a pas volontairement dissimulé des choses pour augmenter cette peine.
Qui est-il selon vous? Qui est-il?
Simplement, c'est un délinquant chevronné, un délinquant sexuel, incontestablement, et qui était un prédateur sexuel et qui recherchait à dominer les femmes, qui recherchait une catégorie de femmes bien particulière. Et voilà, ses objectifs étaient de dominer ces femmes. Donc le plaisir qu'il a pu avoir peut-être potentiellement avec Susanna Zetterberg réside dans la manière dont elle a pu souffrir dans les dernières minutes de sa vie.
Il s'était approprié cette femme, hein, il faut le dire comme ça.
Oui, il s'est approprié.
C'est un prédateur.
Oui, c'est un prédateur. S'est approprié cette femme comme un jouet.
Maître Aurélie Cerceau, il y a une personne dont on n'a pas parlé, c'est la compagne de Cholet, qui apparemment l'entourait d'affection, cette femme. Elle a été présente un peu en filigrane du dossier.
C'est très étrange, parce qu'on parle de compagne, mais finalement, est-ce que c'était vraiment une compagne? C'est très flou. Ils ont vécu ensemble, ils étaient plutôt colocataires, je pense. Elle a peut-être été sa compagne pendant quelques semaines, mais ça s'est arrêté là. En fait, Bruno Cholet n'a jamais vraiment eu de compagne, n'a jamais vraiment eu de vie amoureuse.
C'est un solitaire.
C'est pas un solitaire, c'est un homme qui est né avec une part d'ombre, abandonné par sa mère, qui a très peu vécu avec sa mère, qui a vécu entre pouponnière, nourrice, famille d'accueil, centre psychiatrique, et qui en fait a été le plus clair de son temps enfermé dans sa vie. Donc c'est un homme qui n'a jamais connu l'amour, me semble-t-il.
Quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Et on va terminer là-dessus.
Je l'ai vu en 2016, je pense, la dernière fois. Et ensuite, il m'appelait de temps en temps, et il m'écrivait beaucoup.
Et qu'est-ce qu'il disait?
Ah, ça, je peux pas vous le dire.
Vous pouvez pas le dire, mais en tout cas, il est...
Je peux pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il aura toujours nié les faits.
Merci beaucoup, maître Aurélie Cerceau, maître Laure Moureux et puis Éric Trunel d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song.
Zamba Black Medley 3 en Ouaï. Toutes ces voix féminines et masculines. Et titres internationaux et caribéens. Un mélange très bien dosé. Zamba Black Medley 3 à découvrir sur RCI.
Merci bon Dieu.
RCI vous offre 1500 euros minimum cash tous les jours.
Allô?
Tu as gagné la somme de 3000 euros!
Trop cool!
Julie, annonce-lui! Annonce-lui!
Tu annonce-lui. As gagné la super cagnotte 1500 euros
oui.
Grâce à moi!
Oui!
Mon Dieu! Allô? C'est pas vrai? Le bon Dieu est grand! Le bon Dieu savait que j'avais besoin de ça. Mon Dieu, merci, merci, merci.
1500 euros minimum, cash, tous les jours. Accident, embouteillage, fait divers, un numéro à votre disposition. Le 0596 63 31 31. La ligne info RCI, le lien entre vous, l'info et RCI. Dès que vous avez une info,